midi, midi 15, le quart d'heure actu sur RCN. Magali Santulli.
Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 2 juillet, nous fêtons les Martiniens et c'était un 2 juillet 2008. Ingrid Betancourt est libérée par l'armée colombienne après avoir été otage des FARC pendant 6 ans. On jette un coup d'œil à la météo du jour en Meurthe-et-Moselle. Une perturbation de faible activité ondulera au-dessus de nous cet après-midi et engendrera quelques nuages, mais les éclaircies seront encore présentes. Le vent d'ouest sera soutenu et les températures seront estivales, mais sans excès, avec 23 à 28 degrés attendus sur le département. Dans notre dossier du jour, tout au long de la semaine, je vous emmène dans les coulisses de la SPA de Lorraine. Et puis nous continuons de nous poser cette question à l'heure du numérique. Comment l'information et la place des journalistes se transforment-elles? Mais d'abord, les nouveaux cours d'éducation à la vie affective peinent à se déployer sur le terrain. Seuls 6 enfants sur 10 en primaire ont pu suivre les 3 séances annuelles réglementaires mises en place depuis septembre dernier. Car le manque de moyens et de formation des enseignants freine le dispositif. Autre frein au déploiement de ces programmes, la crainte d'une opposition de certains parents.
Le quart d'heure actu sur RCN.
Et tout de suite, c'est le rappel des titres. Un an après l'incendie du massif des Corbières, le sud de la France est à nouveau frappé par un feu d'ampleur parti mercredi après-midi de l'Hérault avant de rapidement se propager au département voisin de l'Aude sous l'effet de la sécheresse et du vent. Deux incendies se sont également déclarés hier dans la soirée à Rognac et Lançon-Provence dans les Bouches-du-Rhône, deux communes situées à une vingtaine de kilomètres au nord de Marseille avec des feux attisés par d'importantes bourrasques et de fortes chaleurs. Ces feux qui n'ont pas fait de victimes sont maintenant fixés, une situation qui inquiète alors qu'un nouvel épisode caniculaire se profile et que 6 départements font face à un risque très élevé d'incendie. Par ailleurs, les autorités continuent d'alerter sur le risque de noyade dans cette période de forte chaleur. Le bilan monte à plus de 90 décès par noyade depuis le 19 juin, annonce la ministre des Sports. Le nombre de détenus en France est toujours en hausse à 88 829 au 1er juin. Cela représente près de 4 400 détenus de plus sur un an. Au global, le taux de suroccupation dans les prisons était de 140,5% au 1er juin. Surveillants comme directeurs de prison alertent sans relâche sur un système pénitentiaire au bord de l'explosion. Dans son dernier rapport annuel publié fin mai, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté Dominique Simoneau a dénoncé, je cite, une catastrophe pénitentiaire. Elle lance ce jeudi un nouvel appel pour résorber la surpopulation en prison et garantir le respect des droits fondamentaux des détenus. Au Venezuela, le président de l'Assemblée nationale a annoncé mercredi le bilan du double séisme qui a frappé le pays, un bilan qui s'élève désormais à 2295 morts et plus de 11 000 blessés. Des dizaines de milliers de personnes sont encore portées disparues. Plusieurs centaines de sauveteurs s'activent encore dans les décombres. Allez, on passe tout de suite au dossier du jour.
RCN. Le quart d'heure actu, Magali Santulli.
Et tout au long de la semaine, je vous emmène dans les coulisses de la SPA de Lorraine. Laurent Demar est responsable du refuge de Velaine-en-Haye. Il estime que l'un des enjeux majeurs est de sensibiliser les propriétaires d'animaux à l'importance de la stérilisation.
Moi, je ne comprends pas comment des gens peuvent encore avoir des animaux non stérilisés chez eux. Déjà, c'est invivable. Les chats, quand ils sont en chaleur, ça miaule, ça hurle. Il y en a beaucoup qui deviennent malpropres. Et surtout, je ne comprends pas comment des particuliers peuvent ne pas comprendre que laisser sortir un animal non stérilisé, c'est contribuer à la misère animale. Nous, des chatons, rien que sur Velaine, on en récupère traditionnellement entre 300 et 400 par an, rien que sur le refuge de Velaine. Donc si on multiplie par le nombre de refuges qu'il y a dans le département déjà, et nous on récupère ceux qui survivent dans la nature. Donc avoir un animal non stérilisé, pour moi, c'est irresponsable. Nous, tous les gens qui adoptent chez nous, que ce soit chaton ou chat adulte, même chien, enfin tous les animaux qui sortent du refuge sont stérilisés de toute façon. Enfin, les chatons, les gens ont obligation de les faire stériliser, et on est très strict là-dessus. Après, je pense que ça a quand même un petit impact. nos campagnes de stérilisation, ouais. Parce que l'année dernière, alors soit c'est ça, soit malheureusement il y a eu de la mortalité énorme dehors à cause des différentes canicules qu'il y a eu, mais on a eu moins de chatons l'année dernière. On a eu une centaine de chatons en moins, ce qui est énorme. Après, il y a eu aussi des virus assez bizarres sur des chatons, que j'espère que c'est pas le cas, mais peut-être qu'il y a eu un virus un petit peu nouveau qui a eu un taux de mortalité énorme sur les naissances qu'il y a eu dans la nature. Mais voilà, on verra cette année si on a toujours autant de chatons qu'avant, ouais. Ou si la baisse de naissance se vérifie ou pas.
Par ailleurs, Laurent Demar estime qu'il faudrait renforcer les mesures de protection envers les animaux et les sanctions pénales dans le cas de maltraitance animale.
On en fait, on n'en fera jamais assez. Ou alors, il faudrait vraiment créer une brigade qui soit dédiée à ça. Nous, on est des professionnels du monde animal, mais on n'est pas des professionnels du droit. On n'a aucun pouvoir de coercition sur les gens. De toute façon, c'est pas parce qu'on va aller chez quelqu'un qu'il va nous abandonner son chien s'il est maltraité. Donc non, il faudrait qu'il y ait des brigades. Il faudrait surtout que la loi soit appliquée, qu'il y ait vraiment des poursuites judiciaires. Parce que là, déjà, nous, quand les gens ont des rappels à la loi, c'est déjà une bonne chose. On arrive des fois à avoir des condamnations avec amende. Il y a une évolution quand même des mentalités, j'ai un peu l'impression. Le fait d'avoir mis en place le certificat d'engagement, c'est une bonne chose, mais nous, on voit déjà à l'époque, on plaçait pas parce que quelqu'un voulait un chien ou un chat. On discutait avec les gens, on plaçait pas sur des coups de tête, on place sur des coups de cœur avec des gens qu'on sent motivés. Donc, et après, on a toujours un droit de regard sur l'animal. Ça évolue pas assez vite pour moi, en tout cas. Voilà, il faudrait vraiment qu'il y ait des sanctions sur les maltraitances et sur les abandons. Et peut-être aussi rendre obligatoire la stérilisation des chats domestiques. Ça, ce serait une bonne chose aussi.
Et aujourd'hui, la SPA Lorraine a plusieurs besoins.
Financier, on a toujours besoin d'argent. C'est comme ça que le refuge existe. Après, parce que nous, il faut savoir une chose, c'est qu'on a pratiquement aucune subvention. C'est-à-dire qu'on a peut-être 2-3 communes qui font des petites subventions, mais ça dépasse rarement les 1000 ou 2000 euros par an. Et vu que nos frais de fonctionnement sont quand même, il faut multiplier cette somme-là par 10, on va dire, 10 ou 20 par mois. Donc, on vit qu'avec les legs, qu'avec les adoptions et qu'avec les dons. Donc, forcément, l'argent, c'est ce qui nous manque le plus. Ensuite, des moyens humains, on a toujours besoin de bénévoles. On est une équipe de 6 sur le refuge de Velaine, 6 salariés. Mais forcément, faut qu'on se repose certains jour, il y a des gens qui sont en vacances, et faire tourner le refuge avec une équipe réduite, c'est très compliqué. Et après, on a des besoins en matériel, forcément, on a toujours besoin de litière, de pâté pour chat, des choses comme ça. Ça tourne assez bien aussi avec les collectes alimentaires qu'il y a dans les supermarchés. D'accord. Mais après, même des jouets pour les chiens s'occupent, les chats s'occupent, tout ce qui concerne les animaux, en fait. Sac poubelle, c'est pareil, c'est ce qu'on demande aussi pendant les collectes alimentaires, donc oui, c'est un truc tout bête, sac poubelle, éponge, essuie-tout, enfin voilà, tout ce qui est utile quotidiennement au refuge également. Ouais.
RCN, le quart d'heure actu, Magali Santulli.
Les réseaux sociaux prennent une place croissante dans l'accès à l'information et les plateformes s'imposent devant les médias traditionnels comme source d'information. À l'heure du numérique, comment l'information et la place des journalistes se transforment-elles? Alexis Barthélémy a mené l'enquête dans un reportage à suivre tout au long de la semaine. Écoutez ce 4e épisode.
Dans les épisodes précédents, nous avons expliqué pourquoi l'information passe de plus en plus par le biais d'influenceurs et de moins en moins par les journalistes. En plus d'une question de simplicité et d'un manque de confiance envers les médias traditionnels, les influenceurs se servent d'un atout psychologique.
Un influenceur qui va répondre à quelques commentaires, c'est-à-dire que quand tu descends, tu regardes, tu vois que la personne elle est connectée. Et donc il y a une illusion qu'il y a un retour, parce que parfois il y a une réponse, mais la réponse elle n'est pas adressée à toi en tant que personne, mais à la masse des followers.
Les influenceurs captent donc des audiences qui grandissent sans cesse, et cette ascension est en fait un réel danger pour l'information en France.
Un monde sous influence, les influenceurs prennent-ils le dessus sur les médias? Une enquête signée Alexis Barthélémy, Paul Merle, Lisa Canastra, Mickaël Huélin et Romain Fournier.
En fait, le problème vient précisément des réseaux sociaux et de leur fonctionnement. Tout d'abord, précisons que l'arrivée des réseaux sociaux a complètement pris de court les médias traditionnels. Qu'il s'agisse de journaux écrits, de chaînes télévisées ou encore de radio, ils se sont toujours retrouvés au milieu d'une course à celui qui sortira une information importante en premier. Et avec les réseaux sociaux, cette course est amplifiée. N'importe qui peut publier une vidéo avec une grande facilité. Les médias vont alors se jeter sur cette information afin d'être le premier à la repartager. Ce qui pose un vrai problème, d'après la journaliste Gemma Durso.
À partir du moment où Internet a pris le dessus, il fallait aller tellement vite pour ne pas être à la traîne. Les journalistes n'avaient plus le temps de vérifier les sources et que finalement, ça entraînait des fausses informations. Et les fausses informations, à leur tour, de la méfiance et de la perte de confiance parmi les lecteurs.
Autre détail qui met en difficulté les médias traditionnels, l'algorithme des réseaux sociaux. Celui-ci met en avant les vidéos sur lesquelles s'arrêtent les utilisateurs et propose à ces mêmes utilisateurs du contenu similaire. C'est pourquoi les influenceurs cherchent à capter directement l'attention afin de retenir les spectateurs. Et pour cela, ils n'hésitent pas à tenir des propos problématiques, comme l'explique Laure Miller, rapporteur de la commission d'enquête sur les réseaux sociaux qui s'est tenue l'été dernier à l'Assemblée nationale.
Pour eux, en effet, et c'est même Alex Hitchen qui le dit dans son début d'audition, puisqu'il n'a pas fait la fin de l'audition, mais qui expliquait lui-même qu'il fallait que les premières secondes de sa vidéo soient relativement impactantes s'il voulait finalement qu'elles aient en effet à la fin du succès et donc qu'elles puissent être visionnées le plus grand nombre de fois et donc que ça lui rapporte de l'argent. Et pour les autres, c'était la même chose, notamment à Adé Laurent. Donc ils ont parfaitement conscience que pour acquérir et pour arriver à cette viralité-là, il faut qu'ils puissent avoir les premières secondes qui captent l'attention. Et donc évidemment, ça pousse à des choses qui sont soit par les mots, soit par le comportement et par le visuel assez radicales. Par essence, le modèle économique des réseaux sociaux a pour effet ces dérives-là, en tout cas, oui.
Et souvent, ces propos restent sur les réseaux sociaux, ces derniers étant peu, voire pas du tout modérés. Et cette absence de modération se remarque surtout dans le monde de l'information, avec la propagation de fake news et l'augmentation de la désinformation.
De plus en plus de jeunes, mais pas que, ne s'informent plus que sur les réseaux sociaux. L'information n'est pas forcément vérifiée, loin de là. Il n'y a pas les règles qui s'appliquent aux réseaux sociaux. D'ailleurs, il ne s'applique aucune règle aux réseaux sociaux s'agissant de l'information. Et donc, contrairement à la presse écrite, la presse audiovisuelle ou télévisuelle, il n'y a pas de règles vraiment de contrôle de l'information comme on peut avoir ailleurs. Et donc, les jeunes ne vérifient pas spécialement ce qui relève selon eux de l'information. Puis par ailleurs, c'est une information qui est orientée. C'est pas le jeune qui va aller chercher de l'information. C'est ce que la plateforme va bien vouloir lui donner comme vidéo à voir, et donc on voit bien que c'est biaisé.
Petit détail, ce fait a d'ailleurs tendance à s'élargir encore plus depuis l'essor d'une technologie d'autant plus nouvelle, l'intelligence artificielle. Et si l'on met de côté ce fonctionnement des réseaux, il y a une différence entre un influenceur qui reposte ce qu'il voit et un journaliste qui va chercher son information puis la vérifier. La fiabilité n'est pas la même.
Pourtant, l'enseignante en sciences de la communication et de l'information Aurélie Aubert pointe du doigt une forme de mélange de ces deux-là sur les réseaux sociaux.
Ce qui est compliqué, c'est que sur les réseaux sociaux, maintenant avec ce système de défilement permanent des vidéos, c'est difficile de s'y repérer et donc les contenus certifiés des journalistes professionnels cohabitent avec des vidéos qui sont parfois très difficiles à sourcer, dont on ne sait pas très bien qui parle, de quoi, etc. C'est ça qui est compliqué, si je puis dire. La question centrale, c'est plutôt est-ce qu'on est capable de reconnaître qui nous informe.
D'après le baromètre du groupe Verian, 72% des Français disent se méfier des informations transmises par les influenceurs, et à juste titre, d'après Rémi Amarouche, journaliste et spécialiste des réseaux sociaux.
Que même les influenceurs, comme ils ne vérifient pas forcément leurs informations, bah, il ne faut pas croire tout et tout le monde, quoi. Les gens les écoutent, les gens les croient et prennent ça comme une réelle information, et c'est ça qui est dangereux, et en ça ils ont une responsabilité. Ils font partie de ces gens qu'on aime écouter comme si c'était un ami ou un pote. Les réseaux sociaux sont plus complémentaires à un média traditionnel et pas un remplaçant. Je pense qu'il y a un travail à faire sur les deux côtés, en fait.
RCN, le quart d'heure actu, midi 15.
Et dans le reste de l'actualité, la guerre en Ukraine a fait plus de 2 millions de victimes militaires russes et ukrainiennes, blessées, tuées et disparues confondues. C'est ce qui ressort d'une étude publiée ce mercredi par un cercle de réflexion américain. Moscou a subi le plus gros des pertes avec 400 000 à 450 000 morts sur un total estimé à 1,4 million de victimes parmi ses troupes. C'est 9 fois supérieur au nombre total de morts russe tout conflit confondu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Panama annonce se lancer à son tour dans la construction d'une prison de haute sécurité pour lutter contre les gangs et notamment isoler les chefs de gangs. Plusieurs pays d'Amérique latine tentent de reproduire le modèle carcéral du Salvador qui, dans sa guerre contre les gangs, a emprisonné 92 000 personnes depuis 2022. Le président du Panama a annoncé ces mesures alors que le pays est encore choqué par la mort d'une fillette de 10 ans dans une attaque de tueurs à gages visant son père, ainsi que l'évasion de près de 200 prisonniers, dont la plupart ont déjà été repris il y a un mois. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve demain, même endroit, même heure.
Pour tout savoir sur RCN, www.rcn-radio.org.